affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Les fleurs du mal, le nom porte un parfum de scandale. Il évoque l'un des plus fameux procès littéraires qui vient tailler l'œuvre de Baudelaire à peine éclose. C'était en 1857. 4 ans plus tard, le recueil circule de nouveau dans une version expurgée. Mais le poète ne peut se résigner à cet échec. Il rêve d'une nouvelle édition des fleurs, plus libre et plus complète encore. Il y travaille avec ardeur, il écrit des pièces inédites, il cherche un nouvel éditeur. Hélas, la mort l'emporte en 1867 sans que ce projet ait pu aboutir. Ses amis reprennent le flambeau. En 1868, Michel Lévy offre au public ce qu'il appelle l'édition définitive des Fleurs du Mal. Cette publication a marqué toute la fin du 19e siècle, mais elle n'était plus disponible depuis des décennies. Pierre Brunel s'est attaché à nous la rendre. Elle vient de sortir aux éditions Kalman-Lévy, avec la préface originale de Théophile Gautier et des poèmes qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Pierre Brunel est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un spécialiste de littérature comparée. Nous sommes heureux de le recevoir aujourd'hui pour parler de Baudelaire à l'occasion de son bicentenaire. Bonjour Pierre Brunel.
Bonjour et merci beaucoup. Ça me touche beaucoup d'être avec vous à Canal Académie, que j'ai fréquenté depuis assez longtemps, et d'avoir cette occasion de parler de Baudelaire et spécialement des Fleurs du Mal.
Justement, est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture des Fleurs du Mal ? Est-ce que c'était adolescent grâce à un professeur de collège comme pour beaucoup d'entre nous ?
Alors, je vais vous dire que c'est très simple, inoubliable pour moi, parce que j'appartenais encore à une époque où on n'étudiait pas beaucoup Baudelaire en classe, et une réputation satanique derrière lui. Et mon premier contact, je me souviens parfaitement, c'était en classe de première. J'étais dans un collège de province, dans la petite ville de Melle, dans les Deux-Sèvres, et le professeur, M. Boutécard, nous a fait étudier un poème de Baudelaire, l'un des plus connus, sinon le plus connu, Correspondance. Et j'étais très frappé en repensant à cela par la suite. La littérature s'arrêtait là, dans le temps. Baudelaire avec Correspondance, c'était la fin de notre programme, en quelque sorte. Il aurait été audacieux d'aller plus loin dans le temps. Moyennant quoi, ça m'a frappé, mais surtout j'ai eu la chance, 2 ans plus tard, à Poitiers, en classe d'Hippocagne, au lycée de Poitiers, d'avoir un magnifique professeur, M. Blanchard, qui nous a fait étudier de manière approfondie, cette fois-ci, Baudelaire, les Fleurs du Mal, dans un programme d'ensemble qui portait sur la poésie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et ça, ça a été pour moi quelque chose de marquant, indéniablement. Le premier souvenir paraît anecdotique, significatif quand même de quelque chose. Et le second souvenir est vraiment, pour moi, quelque chose qui appelle la reconnaissance.
Alors, par la suite, vous êtes devenu professeur de littérature. Baudelaire revient régulièrement dans vos travaux, aux côtés d'autres auteurs comme Claudel ou Rimbaud. En 1998, vous avez consacré à Baudelaire, ou plutôt aux Fleurs du Mal, un ouvrage, Entre fleurir et défleurir, pour proposer un commentaire de cette œuvre majeure. Et cette année, en 2021, vous nous offrez une nouvelle édition des Fleurs du Mal, dans une version bien particulière. Nous allons y revenir. Mais auparavant, Pierre Brunel, nous aimerions savoir ce qui vous touche encore aujourd'hui dans cette œuvre de Baudelaire, Les Fleurs du Mal.
Alors avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir en arrière, si vous me le permettez.
Bien sûr.
Pour ce qui a été de mon itinéraire intellectuel, en quelque sorte, je parlais de l'année d'Hippocagne. Quand j'ai passé le concours d'entrée à l'École normale supérieure, en 1958, le sujet de dissertation portait sur Baudelaire. Et je vous dirais que ça a été une chance formidable pour moi, parce que j'ai été reçu. Je n'aurais pas été aussi facilement avec un autre auteur. Et puis alors, souvenir aussi dans ma carrière impérissable, quand j'ai assuré pour la première fois des fonctions d'enseignement à la Sorbonne, c'était très exactement en 1965, il y avait un programme de littérature comparée, titre Baudelaire et Swinburne. Et je me suis pris vraiment de passion pour ce sujet, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Je ne connaissais rien de Swinburne avant. Je ne savais pas que c'était un grand admirateur de Baudelaire. Je ne savais pas qu'il y avait autant de ressemblances entre la poésie de Baudelaire et la poésie de Swinburne. Et forcément, ça a été aussi déterminant dans mes recherches personnelles, même si Baudelaire n'a pas été pour moi l'auteur de thèse, même si je ne me suis pas affiché en spécialiste de Baudelaire. Mais il y a eu, à cet égard, une continuité véritablement dans mon intérêt pour lui, dans la grande satisfaction de lecteur, mais aussi de chercheur, d'où quelques publications. Merci beaucoup d'en avoir évoqué. Et le travail que je viens d'accomplir, c'est en quelque sorte le tout dernier, celui dont je sors à peine et dont je sors vraiment épanoui après cette période de confinement qui m'a permis de le réaliser en un an.
Alors, Baudelaire vous parle toujours. À quoi reconnaissez-vous sa voix? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors là, j'ai un peu de mal à vous répondre, parce que pour moi, Baudelaire, et même à l'intérieur des Fleurs du Mal, est un auteur, je dirais varié, mais le mot est impropre. Ce qui me frappe chez lui, et plus je travaille sur son œuvre, plus j'y suis sensible, c'est que c'est l'homme des contraires, c'est l'homme des contradictions. J'avais entrepris il y a quelques années un travail que je n'ai pas achevé, que j'achèverai peut-être un jour, mais je n'en suis pas sûr, sur Baudelaire et la religion. Et Baudelaire, il est véritablement entre Dieu et le diable. Il est quand même très frappant, pour en venir justement aux Fleurs du Mal, que le premier poème de la section « Spleen et idéal » dans toutes les éditions, c'est un poème où il est question de Dieu. Et au centre du recueil, ou à peu près, et là encore dans toutes les éditions, ce qui ne laisse pas d'ailleurs d'être surprenant, il y a dans la section révolte les litanies de Satan. « Ô Satan, prends pitié de etc., 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 etc. » Où Satan prend la place véritablement de Dieu. Donc Baudelaire, pour moi, il est entre Dieu et Satan. C'est une de ses contradictions affichées, parce qu'il en était conscient, inévitablement. C'est au centre de son œuvre. Et évidemment, à côté de cela, il y a d'autres contradictions, il y a d'autres oppositions des contraires. On insiste toujours beaucoup sur correspondance. Et j'ai été formé à l'origine par ce premier poème. Je me dis quelquefois aujourd'hui, est-ce qu'on ne lui accorde pas trop d'importance, même si c'est un magnifique sonnet, et même s'il a une postérité admirable. Mais correspondance, c'est plutôt un poème de l'unité, où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Donc, dans l'univers sensible, il n'y a pas d'opposition entre ces sensations, mais elles se rejoignent, elles forment un tout. Mais à côté de cela, que d'oppositions. Alors les plus flagrantes, j'ai parlé de Dieu et Satan tout à l'heure, mais bien sûr, le soleil et la nuit. J'ai été très frappé par cela dans la première édition complète des Fleurs du Mal, parce qu'il faudrait dire un mot aussi des pré-publications. Donc dans l'édition de 1857, celle qui a été victime du procès, le deuxième poème s'intitulait « Le soleil ». Et dans les éditions qui ont suivi, ce poème est toujours présent, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, comme si Baudelaire ne voulait pas illuminer immédiatement son recueil. Et à côté de cela, vous avez des poèmes où la nuit est présente. Alors je tiens beaucoup à l'un d'entre eux, parce qu'il m'a guidé en quelque sorte vers le travail qui a été le mien, vers l'intérêt que j'ai porté à cette édition de 1868. On le trouve seulement dans l'édition de 1868. Il n'est ni dans l'édition de 1857, ni dans l'édition de 1861. Et pour cause, il a été écrit par Baudelaire après 1861. On le trouve dans des publications plus confidentielles après. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, si vous le souhaitez. C'est le poème qui s'intitule « Recueillement hein ». Et le dernier vers de ce poème « entend la douce nuit qui marche hein ». J'ajouterai, pour être complet dans l'ordre des oppositions, la douce nuit. Mais vous avez à côté de cela des poèmes où la nuit, c'est quelque chose d'absolument effroyable. L'un des plus terribles poèmes des Fleurs du Mal, à mon avis, c'est celui qui s'intitule « Le couvercle », qui est d'ailleurs, curieusement, je m'en suis aperçu récemment, dans la prépublication « Suivait recueillement ». Et « Le couvercle », c'est ce couvercle qui pèse sur nous, sur notre existence. Le couvercle de la nuit, mais de la nuit quand il fait jour. Hein. Le monde est une espèce de chaudron dans lequel nous sommes enfermés et avec cet épouvantable couvercle au-dessus de la tête. Voilà les choses qui m'ont beaucoup frappé et qui me frappent encore aujourd'hui.
Nous allons maintenant parler de l'édition des Fleurs du Mal, ou plutôt des éditions des Fleurs du Mal. Et vous nous avez parlé de ces pré-publications
voilà.
qui ont précédé le premier recueil. Il y a eu des poèmes publiés notamment dans les journaux.
Oui, oui. Alors, il y a eu des poèmes publiés assez tôt même, hein, dans les années 40. Et des prépublications d'ensemble de poèmes. Alors, je vais être bref sur ce point, parce que c'est un travail d'érudition plus qu'un travail nécessaire pour une approche sensible de Baudelaire. Mais c'est quand même important, et pour plusieurs raisons. Vraisemblablement, Baudelaire a pensé assez tôt à un recueil, hein, même s'il y a eu des publications de poèmes isolés avant. Mais... un début de carrière, vous savez ce que c'est. Un auteur, même aujourd'hui, il commence par publier des articles dans un journal ou dans une revue avant de publier un livre. Les deux premiers projets de publication de poèmes avaient pour titre le premier, Les lesbiennes. C'est un point d'interrogation qui demeure à ce sujet, parce que cette question des lesbiennes est responsable en grande partie de la condamnation des Fleurs du Mal en 1857. Et plus intéressant, une prépublication en 1851 sous le titre « Les limbes ». Titre tout à fait intéressant. Hein. « Les limbes », j'essaie de définir ça aussi simplement que possible, ce n'est ni l'enfer ni le paradis, c'est une zone du monde des morts où peuvent se retrouver les âmes innocentes, les âmes des enfants, les âmes des vertueux, qui pourtant ne sont pas pour autant admis au paradis. Hein. Et donc un certain nombre de poèmes qu'on retrouve par la suite dans les Fleurs du Mal se trouvent dans ce premier rassemblement de poèmes sous le titre « Les limbes ». Et puis il s'est passé quelque chose de farabineux que je raconte dans ma préface, c'est qu'au moment où se préparait la publication de ce recueil, sort un autre recueil d'un autre auteur dont j'ai oublié le nom tellement il est inconnu, qui avait ce titre « Les limbes ». Donc Baudelaire a été obligé d'y renoncer, et il en est venu à un troisième titre, là on le dit très très souvent, qui lui a été suggéré par un nommé Hippolyte Babou, nom tout à fait comique. Hein. Hippolyte Babou était un homme de lettres, rencontré presque par hasard par Baudelaire dans un cercle littéraire, et qui lui a dit « Pourquoi tu n'appellerais pas ça les Fleurs du Mal ?» Et voilà comment on en est venu à ce titre, qui nous a donc valu d'abord une prépublication dans une revue hein, en 1855, puis deux ans après, le premier recueil, Les Fleurs du Mal, et l'édition de 1861 et l'édition de 1868, sur laquelle peut-être nous reviendrons par la suite. Mais je voudrais dire un mot à propos de l'édition de 1855. C'était déjà un ensemble de poèmes. Hein. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, quelque chose comme 11, autant que je me souvienne. Hein. Et ce recueil a suscité, comme c'était souvent le cas dans les publications de Baudelaire, des réactions dans la presse, des éloges quelquefois, mais aussi des critiques violentes. Et il y avait eu un article particulièrement féroce. Hein. Michel Lévy, l'éditeur, lit cet article. Il dit « chic, 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 je veux publier ça hein ». Il faut dire que Michel Lévy avait déjà un contact avec Baudelaire, puisque c'est lui qui a publié les premières traductions d'Edgar Poe par Baudelaire. Hein, la première date de 1856, donc vous voyez, très peu de temps après la publication de 1855. Et c'est quelque chose qui me paraît tout à fait cocasse et tout à fait significatif aussi de ce sur quoi j'ai essayé d'insister dans ma présentation de l'histoire des Fleurs du Mal 1868, c'est que la relation entre Michel Lévy et Baudelaire a été une édition,
une relation
étrange, hein, qui pouvait aller de l'amitié au conflit. Je n'ai pas manqué de rappeler, dont je ne m'étais jamais aperçu auparavant, qu'ils étaient nés la même année, hein, en 1821, Baudelaire le 9 avril, dans quelques jours nous allons célébrer sa naissance, et Michel Lévy en décembre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'un conflit entre frères jumeaux ou quelque chose comme ça, entre camarades d'école qui se chamaillent et en même temps qui s'adorent. Hein, Et alors ce qui est sûr tout de même, c'est quelque chose qui m'a frappé et sur quoi j'ai voulu insister, c'est que dans ces dernières années, plus Baudelaire se tournait en pensée vers Michel Lévy pour cette édition qu'il souhaitait, non seulement l'édition qui a été appelée en 68 définitive des Fleurs du Mal, mais aussi l'édition de ses œuvres complètes, que, je le fais observer, Michel Lévy, justement, a réalisé, puisque les Fleurs du Mal, en 1868, c'est le tome 1 de l'édition des œuvres complètes, qui va comporter plusieurs volumes, dont les traductions d'Edgar Poe, tout cela publié entre 1868 et 1870.
Seulement en 1857, ce n'est pas Michel Lévy qui édite Baudelaire, mais un autre éditeur.
Alors, ils se sont manqués de peu, si je puis dire, hein, parce que quand ils préparaient cette édition, forcément Baudelaire pensait à Michel Lévy, mais c'est là une chamaillerie est intervenue. Baudelaire s'en explique, hein, on trouve ça dans sa correspondance, où il se plaint du traitement que lui inflige Michel Lévy, il ne lui donne pas assez d'argent. Donc il le considère comme un ladre, pour ne pas dire comme un pirate. Et du coup, quand il trouve une autre occasion en 1857 de publier les Fleurs du Mal, il le donne à un autre éditeur qu'il connaît depuis peu de temps, qui est d'ailleurs un nouvel éditeur, on peut dire, parce que Auguste Poulet-Malassis était à l'origine imprimeur seulement à Alençon, et il venait de fonder à Paris, avec son beau-frère, De Broise, une toute nouvelle maison d'édition, celle vers laquelle s'est tourné Baudelaire, celle qui a accueilli Baudelaire. Mais vous voyez, si les Fleurs du Mal, si le recueil avait été prêt en 1956, c'est probablement Michel Lévy qui l'aurait publié.
Oui, c'est une affaire de circonstances. En tout cas, c'est cette jeune maison d'édition de Poulet-Malassis qui va devoir affronter le scandale et le procès qui arrive très vite, immédiatement après la publication des Fleurs du Mal.
Et qui se déroule très rapidement. Hein. Alors, Baudelaire a été conscient de quelque chose ici. Quand on lit sa correspondance avec Poulet-Malassis, on s'en aperçoit. Je ne dirais pas qu'il le lui reproche, mais il le lui fait observer. Justement, il était un trop jeune éditeur. Il n'avait pas encore les moyens de résister à la censure impériale. Un autre éditeur aurait peut-être engagé un procès, aurait engagé en tout cas les aménagements. Et Poulet-Malassis n'avait pas la puissance suffisante à ce moment-là. J'ajoute qu'il s'est révélé un éditeur fragile, puisqu'il a eu des quantités d'histoires par la suite. Il a été condamné, il a même été emprisonné à un certain moment et obligé finalement de s'exiler à Bruxelles, où Baudelaire l'a retrouvé quand lui-même a choisi d'aller vivre là-bas pour fuir Paris. S'il avait eu un éditeur plus puissant, peut-être que le procès aurait eu moins de conséquences. L'un des seuls adoucissements que je trouve quand même remarquable, c'est qu'un courrier adressé à l'impératrice, Eugénie, hein, a été suivi d'un effet, hein, sans qu'on ait de réponse officielle de l'impératrice, comme vous pouvez l'imaginer, mais l'amende infligée à Baudelaire a été assez fortement diminuée.
Et il y a eu, 4 ans plus tard, une deuxième édition.
Alors, il y a eu 4 ans plus tard, une deuxième édition, même un peu moins de 4 ans, puisqu'elle paraît au début de l'année 1861. Et c'est Poulet-Manassis, qui est toujours à Paris à ce moment-là, qui n'a pas encore eu à subir les autres procès ou condamnations qu'il a eus. C'est toujours Poulet-Manassis qui assure la publication de cette édition. Une édition qui est donc allégée des pièces condamnées. Il y a eu 6 poèmes condamnés et qui est enrichie, en revanche, de quelques poèmes supplémentaires que Baudelaire a écrit, qui parfois sont parmi d'ailleurs les plus beaux. Je pense à un poème pour moi d'une extrême importance, mais pas seulement pour moi, je veux dire pour n'importe quel lecteur des Fleurs du Mal, puisque le recueil et en 61 et en 68 s'achève sur lui, Le Voyage, celui qui se termine par le vœu aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est un poème que Baudelaire a écrit en 59. Quand il était en vacances, en quelque sorte, lui qui quittait si peu Paris, dans la maison de sa mère, à Madame Aupic, en Normandie. Et l'océan était là, bien sûr, qui incite aux rêves, aux voyages. Mais les voyages paraissent dérisoires à l'égard du grand voyage, qui est le voyage dans la mort. Et c'est peut-être ce voyage qui permet d'accéder à l'inconnu.
Manifestement, Baudelaire n'est tout de même pas satisfait du résultat. Il veut une nouvelle édition des Fleurs du Mal. Voilà. Il y travaille beaucoup. En réalité, quel est son projet? À partir de quand est-ce que se dessine ce projet d'une troisième édition plus complète, plus aboutie des Fleurs du Mal?
Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette question qui est fondamentale. Et je dois dire que c'est en travaillant que j'ai vu plus clair et que j'ai eu finalement, au lieu de l'idée reçue, une idée, je crois, plus proche de la réalité. Mon sentiment, c'est que Baudelaire a été insatisfait de cette édition de 1861, bien sûr à cause des 6 pièces condamnées, mais aussi parce que ça lui semblait insuffisant. J'ajoute, comme tous les grands créateurs, entre-temps, il avait écrit des poèmes, dont ce magnifique Le Voyage. Et par conséquent, quand cette édition est sortie, quand même assez rapidement, début 61, alors qu'il avait d'autres projets de poèmes en cours, quand on voit l'année 1861, on voit qu'elle a été riche dans sa production, mais on a des poèmes qui sont d'après janvier-février, d'après le moment où la deuxième édition a paru, il a trouvé que cette édition était un peu pauvre. Il y a une autre raison, c'est que, bien sûr, la condamnation avait brisé la vente de l'édition de 1857, que l'édition de 1861 avait été publiée avec un nombre d'exemplaires assez réduit et que très vite, l'édition ou s'était épuisée ou avait disparu des librairies, enfin bref, réputation aidant, voilà. Et pour une simple raison commerciale, Baudelaire avait envie d'une troisième édition. Bon. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le plus important, surtout quand on s'appelle Baudelaire. Surtout, il y a le travail de créateur continué en lui. Et moi, je suis frappé quand je reprends la chronologie de voir les poèmes qu'il écrit après la seconde édition. Et je comprends très bien qu'il ait eu envie d'une nouvelle édition. Alors là, je serai prudent, vous voyez. Ce n'était pas nécessairement parce qu'il était obsédé par le souhait de voir reprises les pièces condamnées, il était assez lucide pour savoir que tant que le Second Empire serait là, c'était impossible. Mais il y avait ces pièces nouvelles dont il était l'auteur et il avait le souhait de ne pas seulement les disperser dans telle ou telle revue ou tel journal, mais de pouvoir en faire une troisième édition. Et ce projet de troisième édition, quand on regarde sa correspondance, on le voit évoqué à plusieurs reprises, avec des variations. Il évolue d'un éditeur à l'autre. Il y a Hetzel, par exemple. Il y a Garnier, qui étaient les frères Garnier à l'époque, et bien d'autres encore. Le nom de Michel Lévy reparaît.
D'abord parce que Michel Lévy reste l'éditeur des traductions d'Edgar Poe par Baudelaire. Et puis aussi parce qu'il y a un certain attachement. Il y a, semble-t-il, une bonne relation entre Baudelaire et le frère de Michel Lévy, Kallmann, celui qui lui succédera et qui sera donc le patron des éditions Kallmann-Lévy qui existent encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a absolument sidéré, une lettre qu'il adresse, autant que je me souvienne, à celui qui suit ses affaires financières, maître Ancel, avocat de Neuilly et d'ailleurs devenu maire de Neuilly, une lettre qu'il commence en disant le plus grand mal du radinisme de Michel Lévy, et puis dans le cours de la nuit, il se ravise, et la fin de la lettre, c'est pour dire que c'est Michel Lévy qui doit devenir son éditeur pour qu'il y ait une troisième édition des Fleurs du Mal. C'est très très étrange, hein. Alors je voudrais dire à ce propos, pour être clair, le titre qui a été repris dans l'édition nouvelle peut induire en erreur, édition définitive des Fleurs du Mal, c'est les éditions Michel Lévy qui ont donné ce titre, hein. C'était, mais quand on est encore en vie, est-ce qu'on peut penser à une édition définitive, hein. Un travail de poésie, c'est illimité dans le temps, c'est illimité jusqu'à la fin de la vie. Et donc, ça n'est pas du tout les éditions Kallmann-Lévy d'aujourd'hui, ni moi, qui ont voulu proposer une édition dite définitive. Ça serait vraiment de l'orgueil mal placé, hein. Mais c'est le titre véritable qui a été donné par Michel Lévy frère à cette édition, et je dois dire un titre qui était proche du souhait de Baudelaire. D'abord, Baudelaire se savait fragile, hein, et il voyait bien cette édition comme l'édition finale, en quelque sorte, des Fleurs du Mal.
Voilà. Est-ce que alors, cette édition paraît après sa mort ? C'est une édition
Cette édition posthume. Paraît plus d'un an après sa mort, hein. Il est mort le 31 août 1867, et l'édition paraît en décembre 1868. Bon, il y a eu évidemment les complications qu'il est facile d'imaginer. L'héritière, c'était sa mère, Madame Opic. Elle-même ne pouvait pas gérer cela éditorialement, hein. Il y avait deux hommes de confiance, principalement, Charles Asselineau et Théodore de Banville. On sait que l'un et l'autre, par exemple, ont fait un discours au moment des funérailles de Baudelaire en 67, le 2 août 67. Et il y a eu des tractations, quelquefois d'ailleurs des désaccords entre Madame Opic et les agents d'édition, en quelque sorte. Hein. Il y a eu aussi des questions juridiques. Hein. Il a fallu que Michel Lévy obtienne juridiquement l'acquisition, non seulement des Fleurs du Bal, mais des œuvres complètes de Baudelaire. C'est ce qui lui a permis de se lancer dans cette grande opération en 68.
Ce que vous expliquez, c'est que l'édition de 1868, donc l'édition dite définitive, posthume des Fleurs du Mal, eh bien, elle va être lue, c'est celle qui fera référence jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Voilà, alors vous avez tout à fait raison, ça aussi c'est quelque chose qui est mal connu et pourtant qui va de soi. Hein. Bon, l'édition de 1857, interdite, et du coup, quasiment plus donnée, hein. L'édition de 1861 ayant eu une vie brève, hein, vite épuisée. L'édition de 1868, c'était le seul recours. Et puis, les éditions Michel Lévy et après la mort de Michel Lévy en 75, Kallmann-Lévy étant extrêmement actives, forcément, dans les librairies, c'était ce qu'on trouvait. Je dis quelque part, et j'en suis absolument persuadé, que nos grands auteurs qui viennent par la suite, hein, Gide, Claudel, Apollinaire, je l'ai vérifié, lisez Les Fleurs du Mal dans l'édition de 1868. Ce qui a fait un changement, c'est le 50e anniversaire de la mort de Baudelaire en 1917, où là, d'abord, je crois qu'une question de droit laissait plus de liberté aux éditeurs, et puis peut-être aussi la réflexion de ceux qui se disaient ce recueil de 1868, comme il est étrange, Baudelaire était déjà mort quand il a paru, etc., 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 etc.
Du coup, ce recueil s'est perdu dans les sables.
Alors, du coup, ce recueil Il a été, il faut bien le dire, bizarrement abandonné. Et vous voyez, moi, mon premier mouvement, qui date d'il y a 2 ou 3 ans, c'était de me dire, mais enfin, pourquoi cette édition de 1868 est-elle devenue introuvable? Je crois que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, si je puis dire, c'est que chez un bouquiniste, j'avais trouvé ce volume que j'ai apporté avec moi ici. C'est la reprise en 1886, donc par les éditions Kalman-Lévy, de l'édition de 1868. Alors, vous voyez, tombant là-dessus, je me dis, mais comme c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on met toujours au programme, en général, l'édition de 1861? Pourquoi est-ce celle qu'on réédite tout le temps maintenant, bon, avec heureusement quelquefois des ajouts, en disant pièces ajoutées, etc., 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 etc. Et pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à revivre en quelque sorte la lecture de cette édition de 1868 et c'est ce qui m'a conduit, moi, à ce projet. Je n'ai même pas eu besoin de le présenter. C'est les éditions Kalman-Lévy qui sont venues vers moi, hein, en pensant au bicentenaire. Et j'ai accepté, évidemment, d'enthousiasme. J'avais d'ailleurs, entre-temps, comme je le signale, fait une conférence sur ce sujet. Pourquoi ne réédite-t-on pas l'édition de 1868?
Et pourquoi vous semble-t-elle particulièrement pertinente et intéressante aujourd'hui pour les lecteurs que nous sommes?
Vous posez une très, très bonne question. Jacques Crépet avait choisi, lui, en 1922, et dans la reprise, dans le tome 5 des œuvres complètes de Baudelaire en 1830, avait choisi de regrouper toutes les épaves, donc doter des Fleurs du Mal 1868, celles des épaves qui n'étaient pas des pièces condamnées et qui s'y trouvaient intégrées.
Les doublons, quelque part.
Voilà, alors des pièces auxquelles on accorde en général un statut un peu léger, on dit, alors c'était des titres de section que Baudelaire avait utilisés, effectivement, en tout cas qui figurent dans les épaves, galanterie, bouffonnerie, etc., etc. Mais aussi de très belles pièces, le jet d'eau, des choses comme ça. Alors, il les a ôtées du recueil de 68 tout en présentant l'édition de 68, et il a regroupé les épaves dans le même volume que... voilà. Alors, cette solution ne me satisfaisait pas. Moi, j'ai préféré garder les Fleurs du Mal 68 telles qu'elles étaient. Et évidemment, je me suis quand même posé la question, à un moment où j'étais encore ignare, en me disant, mais que faire avec les pièces condamnées? Est-ce que je fais un ajout en fin de volume, en disant, quel regret qu'on n'ait pas intégré dans ce volume, etc. Et le hasard fait que je suis tombé sur un document qui n'était pas complètement ignoré, mais qui souvent a été interprété faussement. Je vous ai dit tout à l'heure, les Fleurs du Mal, dans l'édition 1868, ont paru au mois de décembre 1868. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, sans nom véritable d'éditeur, vous avez comme indication « à Bruxelles, chez tous les libraires ». Évidemment, ça fait doucement rigoler. Paraît un complément aux Fleurs du Mal. Alors là, si vous permettez, je vais reprendre la page parce que j'ai tenu absolument à ce qu'elle soit reproduite telle qu'elle. Sic. Complément aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, édition Michel Lévy, 1869, ce qui n'était pas vrai, hein, puisque c'est 68. Et en bas, Bruxelles, chez tous les libraires, 1869. Et alors, quelquefois, chez de grands baudelairiens, vous trouvez la mention suivante dans leur bibliographie, ou même quelquefois en note, complément aux Fleurs du Mal, virgule, Michel Lévy, 1869. Mais non. C'était un complément à l'édition Michel Lévy des Fleurs du Mal, et mon interprétation, qui je crois n'est pas abusive, c'était une petite vengeance de Poulet Malassis.
Qui revient.
Qui ne met pas son nom, une fois de plus, mais qui publie donc ce qui, dans les épaves, n'avait pas été repris dans l'édition de 1868. Voilà. Et alors, le résultat de tout cela, bénéfique pour moi, je l'espère pour mon lecteur, c'est qu'en ayant l'édition de 1868 et ce complément, j'ai finalement le tout.
Et il y a aussi cette fameuse notice de Théophile Gautier, qui était un fidèle soutien de Baudelaire.
Voilà. Alors là, c'est une chose également très, très importante. Rééditer l'édition de 1868, c'était conformément au projet de l'éditeur et j'ai essayé de le démontrer conformément aux souhaits de Baudelaire, c'était ajouter aux Fleurs du Mal proprement dites une très très longue préface qui a pris le titre de Notice, un titre modeste pour quelque chose qui fait presque 100 pages, hein, et un appendice. Je dirais que les deux choses correspondaient aux vœux et même, je dirais, à la dernière volonté de Baudelaire. L'appendice, nous en avons la preuve absolue. Il y a plusieurs lettres où il indique pour l'édition future des Fleurs du Mal, il faudra un appendice avec des textes de... Il donne les noms. C'est la plupart des noms que nous trouvons effectivement à la fin. C'était un dossier, en quelque sorte, que Baudelaire souhaitait de témoignages de certains de ses amis, de certains de ses confrères, et en particulier de ceux qui l'avaient soutenu au moment du procès des Fleurs du Mal. Alors vous avez Sainte-Beuve, vous avez Théodore de Bonville lui-même et d'autres. Et alors là, c'était la volonté affirmée dans certaines lettres de Baudelaire. Quant à Théophile Gautier, alors là aussi, Baudelaire était très clair. Après avoir pensé lui-même faire une préface, il penchait pour reprendre un texte que Théophile Gautier lui avait déjà consacré. Alors Théophile Gautier, qui était un modèle à cet égard de fidélité et de courage, est allé plus loin, il a repris un texte qu'il avait fait, il l'a enrichi, et il en a fait donc ce texte liminaire qui, je le précise, n'est pas seulement la préface pour les Fleurs du Mal, mais c'est plus, sinon la préface pour les œuvres complètes, Edgar Poe y compris, en tout cas une préface pour les volumes qui allaient suivre immédiatement les Fleurs du Mal, les Curiosités esthétiques, je l'ai dit tout à l'heure, publié d'ailleurs un tout petit peu avant, et puis un volume très important aussi, celui où pour la première fois va être publié le Spleen de Paris, ce que nous désignons plus souvent aujourd'hui par les petits poèmes en prose.
Eh bien, un grand merci Pierre Brunel de nous rendre les Fleurs du Mal dans cette édition de 1868. Peut-être que juste en mot de fin, vous pourriez nous donner en cadeau un vers tiré de ce recueil. Si vous en avez un qui vous vient à l'esprit, peut-être de recueillement, par exemple. Ou...
Alors, j'allais vous dire, si je ne l'avais pas déjà cité au cours de notre entretien, je vous aurais dit le dernier vers de recueillement, « Entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche ». J'aime beaucoup ce vers parce qu'il y a encore quelque chose du poète de l'amour, ma chère, et il y a cette sorte de conversion de la nuit qui n'est pas la nuit terrorisante, qui n'est pas la nuit couvercle, mais une nuit qui avance et qui ne nous donne plus du temps, l'image effroyable que nous en avons, par exemple, dans l'horloge, mais un temps qui marche, un temps qui évolue, et pourquoi pas un temps qui évolue vers la mort, ouverture sur un monde plus beau, sur le monde du dernier vers du voyage.
Merci pour ce dernier commentaire. Je rappelle donc que cet ouvrage est disponible aux éditions Calman Lévy, donc l'éditeur historique des Fleurs du Mal en 1868. Et c'est vous, Pierre Brunel, qui l'avez préparé. À bientôt.
Merci beaucoup. Thank you.